NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et le fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 86. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. C'est l'émission où on essaye de parler de tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans l'actu technologique en la vulgarisant suffisamment pour que ça soit compréhensible par tous, mais en restant intéressant pour les plus avertis. Je m'appelle Patrick Béja et je suis accompagné de mon compère Jeff Clavier qui nous appelle en direct des États-Unis et de son, comment ça s'appelle, Walkmaster
Ça s'appelle une Walkstation.
D'accord.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors c'est quoi, raconte-moi, c'est quoi cette histoire? En fait, tu es tellement occupé à travailler tout le temps que maintenant tu dois faire ton exercice quand tu es au téléphone ou en podcast.
Ou quand je fais de l'email. Oui, en gros, c'est un espèce de treadmill sur lequel tu vas marcher, tu peux pas courir, et donc tu peux aller jusqu'à 2 miles par heure, donc 3 km/h. Donc ça veut dire que c'est très confortable pour ne pas être essoufflé, pour ne pas être et donc ça me permet de taper sur mon ordinateur.
Et tu le fais longtemps dans la journée ou c'est juste au lieu d'être assis à un bureau, t'es en train de marcher et tu fais tes mails quoi?
Voilà, c'est ça. Et j'essaie en fait de faire à peu près 2 heures par jour quand je suis au bureau, parce que mon objectif, c'est de faire 100 000 pas par semaine. Ça fait l'équivalent de 15-16 kilomètres. Donc comme j'arrivais pas à mettre un peu de temps dans mon agenda pour aller au gym, etc., bah le gym vient à moi.
D'accord.
Voilà, c'est tout.
Bon, c'est les nouvelles techniques pour rester en forme des États-Unis.
Intéressant. Voilà.
Mais j'ai entendu pas mal d'histoires selon lesquelles il y avait des bureaux debout maintenant, qui étaient beaucoup plus sains évidemment que les bureaux assis, et que c'était pas mal de travailler debout plutôt que de travailler assis.
Tu vois maintenant beaucoup de ces bureaux qui ont un système électrique où tu vas pouvoir soit t'asseoir, soit te mettre debout. Et donc moi j'ai le bureau d'un côté, j'ai le workstation de l'autre. Mais c'est vrai que ça te donne une position aussi bien au niveau de ton dos qu'au niveau de ta respiration qui est beaucoup plus saine. Et donc comme il faut vraiment faire de l'exercice de façon régulière, c'est une façon de le faire.
Pas bête. Écoute, ça m'intéresse. Et en plus, c'est juste marcher, donc c'est même pas super fatigant. Moi, je suis preneur.
Non, c'est pas fatigant. L'autre jour, j'ai fait un test. J'ai passé 5 heures dessus. Au bout de 5 heures, j'étais crevé. j'ai fait genre 25 000 pas. Là, c'était beaucoup. Là.
Bon, on va pas vous parler de la Walkstation, de la station de marche de Jeff pendant toute l'émission. On va vous parler du Galaxy S3, des nouvelles adresses de sites web avec des accents et des caractères spéciaux, de Facebook et de son entrée en bourse, et de la bulle, et un petit peu de notre nouveau président, et de ce qu'il fera peut-être, ou en tout cas ce dont il a parlé à propos du numérique. Et on va commencer tout de suite avec le Galaxy S3, qui est le nouveau téléphone star de la marque Samsung. On en a beaucoup parlé dans le podcast Upload qui couvre la mobilité. Ah, j'ai oublié de préciser que la Ustream était notre partenaire sur cette émission et sur beaucoup d'autres, celles qui sont en live chez Ustream, chez NoWatch en fait, puisqu'ils nous offrent une qualité de stream supérieure, sans pub, c'est l'occasion aussi de dire bonjour à la chatroom qui est présente comme toujours pour cette émission, donc si on dit des bêtises, ils pourront nous corriger, et ils ont eu, je dois dire, des réactions assez intéressantes à cette histoire de Walkstation. Donc voilà, merci à la chatroom d'être là nombreuse et à Ustream de nous offrir le compte pro. Donc je disais, Galaxy S3, on en a pas mal parlé dans Upload, qui est le podcast où on parle de, on fait des tests d'app et on parle des nouvelles de la mobilité en général. On a fait un long sujet avec un long test d'une bonne demi-heure sur le Galaxy S3. Donc, si vous voulez vraiment avoir les détails sur ce nouveau téléphone qui est une sorte de must Android, vous pouvez aller écouter l'upload qui sort le mercredi 9 mai. Donc, ça sortira peut-être un jour après l'écoute de cette émission. Mais on va quand même en parler un tout petit peu parce que moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention les annonces de cet appareil et il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressé. D'abord, c'est un excellent appareil tant au niveau hardware qu'au niveau software. Le matériel est très bon, c'est un bon, si on aime les très grands écrans, hein, c'est un écran de 4 pouces 8, donc il est très très grand, mais il est très puissant, il est d'une très bonne résolution, il a une très bonne caméra, enfin, ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait pour en faire le meilleur appareil Android qui soit, le meilleur téléphone Android qui soit en tout cas, en version grande. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils ont associé énormément d'innovations ou de fonctions logicielles très intéressantes, comme le partage de photos, le partage avec vos amis, enfin il y en a plein, hein, il y en a tout un tas. Ce qui fait que c'est, à mon sens, le meilleur téléphone Android en ce moment. Mais d'une part, moi, je l'avais senti un petit peu, et puis Cédric Bonnet, dans l'émission Upload, a précisé ce sentiment. D'autre part, c'est que on dit que c'est un téléphone Android, mais en fait, pas exactement. C'est-à-dire qu'ils ont tellement transformé, customisé Android, que il commence un tout petit peu à s'écarter de ce domaine d'Android. Et là où je recommande vraiment ce téléphone pour les gens qui veulent un téléphone Android, enfin, ça devient compliqué parce que c'est un très bon téléphone, mais les gens qui veulent spécifiquement un téléphone Android veulent sans doute pour certaines raisons qui ne seront plus si intéressantes avec ce téléphone. Par exemple, si on va transformer si on va utiliser un autre système d'exploitation, on va router le téléphone, eh ben on n'aura plus toutes les fonctions qui rendent ce téléphone intéressant. Donc c'est un petit peu une réaction ambivalente. C'est un super bon téléphone, mais c'est plus exactement un téléphone Android. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai analysé la chose. Je le recommande très certainement aux gens qui sont intéressés par des téléphones de ce genre-là, mais il est cher. C'est pas un téléphone qu'on va acheter si on n'est pas, on veut juste un petit truc qui marche. Donc, bon, je sais pas exactement comment le prendre. Est-ce que t'as suivi, toi, les annonces de ce S3, Jeff? Ça t'a fait quelle impression?
Bah, je pense que, comme tu le disais, c'est un très bon téléphone. Pour moi, ce qui a été vraiment marquant, c'est ce que tu disais, c'est le début, en fait, du forking d'Android. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le forking? C'est, t'as un constructeur comme Samsung ou comme Amazon qui dit Android, c'est une technologie, donc open source, c'est intéressant, mais ça manque de fonctionnalités qui sont clés pour moi, Amazon ou Samsung, et donc je vais prendre Android et je vais commencer à développer mes propres extensions, ma propre version. Et donc tu as ça avec le Kindle Fire, la version Android du Kindle, où Amazon a remplacé toutes les fonctionnalités de paiement et de...
Alors là, c'est carrément une transformation énorme, le Kindle Fire, encore plus que sur le S3.
Encore plus, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que Amazon a dit, je prends le tronc et je rajoute toutes ces extensions, je vire ça, je prends ça, etc. Et Samsung, en gros, est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que le problème que Google a fondamentalement, c'est que Android, c'est vraiment pas mal. Il y a 300 000 activations par jour maintenant, ce qui est monstrueux quand tu y penses. Mais à la fin, si les constructeurs veulent vraiment faire des choses très fines avec, ils sont obligés de remplacer des parties de l'OS. Et on a vu avec Unix, il y a des dizaines d'années, ce que ça avait signifié pour le marché, où tu avais des forks dans tous les sens, entre le Berkeley version et puis la version System 5, etc. Et in fine, Unix est en quelque sorte mort de sa multiplicité. Et on peut se demander à ce jour ce que ça veut dire au niveau Google et Android de voir des constructeurs comme Samsung qui a laissé tomber Bala et comme Amazon qui prennent en... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont adopté. La mauvaise nouvelle, c'est que ils commencent à vraiment customiser,
à transformer. Romain du 956 dit un jour Android dépassera iOS. c'est déjà le cas. Hein. Android se vend plus, enfin les téléphones Android se vendent plus qu'iOS. Bon, ensuite il y a plein de moyens de compter les choses, les revenus, les parts de marché sur certaines choses, l'utilisation effective, le nombre de le pourcentage d'utilisation du web. Mais Android est déjà extrêmement a énormément de succès. Donc c'est même plus vraiment sur cette question que le problème se pose. Mais oui, donc c'est vraiment intéressant de voir cette sorte de problématique qu'a aujourd'hui Google avec Android. Et on avait évoqué l'histoire du rebranding, de la recréation d'une marque que Google voudrait peut-être faire avec sa marque Play, en tout cas pour les tablettes, qui se séparerait un petit peu d'Android. Et c'est vrai que on se demande, parce que pour donner un exemple concret, par exemple, le Galaxy S3 offre des fonctionnalités de partage, je le disais tout à l'heure, mais elle ne marche qu'avec un autre Galaxy S3. C'est pas que on va avoir avec ce téléphone la possibilité de partager des photos facilement avec n'importe quel téléphone Android. Il faut que ça soit un autre Galaxy S3. Donc bon, ça pose plein de questions intéressantes. C'est un développement qui est pas forcément inattendu, mais qui est intéressant à observer. Et puis, on se doute que Google prépare aussi des choses avec son acquisition de Motorola. Et là encore, ça risque de changer un petit peu la donne et de brouiller un petit peu les pistes et les cartes. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Samsung, qui était déjà dans une position de leader avec le Galaxy S2 sur le marché Android, là, d'après l'avis de tous, va conforter cette position et l'accentuer encore parce que le S3 est un excellent appareil. Ensuite, un autre sujet qu'on voulait évoquer, c'est celui des nouvelles URL. Alors, les adresses pour les gens qui sont pas très fans de technique, bon, là c'est vraiment la base, hein. Mais une URL, c'est simplement l'adresse internet d'un site ou d'un fichier ou de quoi que ce soit qui est sur le web. Il est défini par son adresse. Et il y a un changement dans le type dans la structure de ces adresses qui va faire que très bientôt, si je ne m'abuse, à partir du 3 juillet prochain, les caractères, ce qu'on appelle les caractères spéciaux, vont faire leur entrée dans ces URL. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut avoir que des caractères sans accent, sans cédille, on n'a pas de dans l'eau, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, les caractères spéciaux, les adresses des sites pourront aussi intégrer des accents et des caractères spéciaux, des cédilles, etc., etc. Et pour moi, et je pense pour la majorité des gens qui connaissent un petit peu ce domaine et des analystes, c'est une catastrophe. Parce que, alors, la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est une raison tout à fait louable, c'est que, comme on le dit dans la chatroom, Seb Ramirez dit vivement les adresses en chinois. En fait, c'est exactement pour ça que ces changements ont été implémentés. C'est parce que, comme les adresses étaient en caractère romain, il était difficile pour certaines personnes qui ne parlaient pas forcément l'anglais ou une langue romaine, d'utiliser ces sites. Bon, à mon avis, ça aurait pu être gérable quand même. Mais bon, il n'est pas juste de demander à quelqu'un qui ne parle qu'arabe, que chinois ou que japonais ou une autre langue du genre de taper les lettres, taper les adresses dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Mais une des conséquences assez dramatiques de ce changement, c'est qu'on va pouvoir avoir des adresses qui vont ressembler à des adresses légitimes, qui vont ressembler vraiment beaucoup à des adresses légitimes, mais qui ne seront pas légitimes. C'est-à-dire qu'une banque, par exemple, je crois que dans l'article de Presse Citron que j'ai pris en référence, il parlait de Société Générale ou de Société. Bon, SociétéGénérale.fr, sans accent, c'est l'adresse de la Société Générale, je crois. Mais aujourd'hui, il pourrait y avoir quelqu'un qui prend Société avec E accent aigu sur les deux E de Société, SociétéGénérale.fr et sans accent sur Général. Est-ce que les gens vont vraiment prêter attention à cette affaire et vont se dire « Ah oui, c'est pas le bon site, donc je vais pas y aller ». Est-ce que les gens vont regarder à chaque fois? Est-ce que s'il y a 15 variations différentes du truc, est-ce que ça va être possible de faire vraiment attention à chaque fois? Et surtout, le truc le plus important, imaginez que vous receviez un email envoyé d'une adresse qui vous semble correct en regardant rapidement, en regardant juste Société Générale, @sociétégénérale.fr, mais vous n'aviez pas vu qu'il y avait soit un petit accent, soit un petit machin qui change, et ça veut dire que c'est plus du tout le même expéditeur. Enfin, c'est hyper dangereux, c'est vraiment problématique, et je suis pas certain que c'était la bonne solution de, d'adopter cette, ce changement. Vous, aux États-Unis, Jeff, vous avez pas vraiment le problème, mais, enfin, moi, je suis vraiment pas convaincu de la justification. Toi, tu penses qu'il le faut ou...
Jeff? On n'a pas le problème, comme tu le dis, parce que par définition, on est 8 bits. Mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que ça va être utilisé par tous les spammers de la Terre ou tous les hackers de la Terre, de manière à ce que, quand tu vois facebook.com ou ce que tu veux, mais en gros, il y aura des umlauts dans tous les sens. Et en fonction de la fonte que tu utilises, si tu arrives à changer en fait la, c'est ta fonte pour que ce caractère-là n'existe pas dans ta fonte, et en gros, tu montres le caractère par défaut, c'est vraiment la porte ouverte à du hacking encore plus facile qu'aujourd'hui, quoi. Et donc, parce que déjà les gens se font avoir parce qu'ils font pas attention, ben alors là, ce sera encore plus facile et légitime. Et c'est un gros problème en fait avec avec l'ICANN, donc l'institut qui va contrôler les noms de domaine, où ils ont ouvert la porte à un peu tout et n'importe quoi en multipliant les extensions, et maintenant en mettant du 16 bits dans dans les noms de domaine. Et même si c'est effectivement pour ouvrir la porte à tout ce qui est hindou, chinois, etc., ça pose un problème de stabilité sur l'infrastructure d'Internet.
Ouais. Et mais est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils auraient pu dire bon ben non, nous les gens qui parlent pas anglais ou des caractères romains au moins, bah on s'en fout et donc on va faire ce qu'on veut. Et enfin, est-ce que c'était réaliste de se dire ça?
Bah c'est compliqué. C'est pas juste pour les gens dont le langage par définition n'est pas un caractère, enfin n'est pas un alphabet 8 bits. Mais le problème c'est que Internet et toute la nomenclature d'adressage qui a été définie dans les années 60 n'avait absolument pas prévu cette explosion. Et quand tu parles, j'ai vu une conférence avec Vinsurf, qui est un des pères de l'Internet, où il parlait un petit peu de tous ces problèmes d'explosion, que ce soit au niveau de l'adressage ou les 128 bits que l'on a aujourd'hui, ils sont très limités. Et le fait que ils avaient absolument pas pensé à la façon dont Internet pourrait devenir un Internet des choses, c'est-à-dire que le jour où tu as une adresse IP dans dans tous les devices, dans toutes les choses que tu as, dans tous les containers que tu as, ou même une pièce de tu vois, une chemise à une adresse IP, ils n'avaient pas du tout imaginé ça.
Et donc non, mais bon, c'est pas le même problème.
C'est pas non, mais c'est le problème où Internet est allé clairement au-delà du design fondamental des gens qui l'ont mis en place. Et donc même si c'est logique que ça qu'on en arrive là, c'est super compliqué et ça ouvre une porte à des abus.
Ouais, donc la conclusion de cette histoire, c'est faites super attention et dites à votre tante Gertrude, comme j'aime appeler les gens qui ne connaissent pas trop ces choses-là, dites à votre tante Gertrude de faire attention elle aussi, parce que ça risque de multiplier les tentatives de phishing et de hacking. Autre sujet dont on parle depuis bien longtemps et qui finalement arrive, l'entrée en bourse de Facebook, l'IPO, qui veut dire Initial Public Offering, si je ne m'abuse, se rapproche de plus en plus. C'est le mois de mai, hein, c'est ça, c'est décidé.
A priori, c'est le 17 ou le 18, ouais.
C'est ça, d'accord. Et donc, ils ont annoncé les prix des actions, et les prix des actions étaient un petit peu plus bas. Ils ont été assez prudents dans leur offre initiale. Une des raisons qu'ils ont invoquées, qui a fait plaisir à pas mal de gens, c'était qu'ils ont dit on va devoir continuer à se battre contre Yahoo. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué ces histoires de procès pour des brevets, que Yahoo avait un petit peu fait une tentative de hold-up juste avant l'entrée en bourse de Facebook, et que Facebook s'était pas laissé faire, qu'ils ont acheté énormément de brevets et qu'ils veulent se battre. Et ils ont dit on va continuer à se battre contre Yahoo, Donc, on va être un petit peu plus prudent sur les prix de nos actions parce que ça va encore coûter de l'argent à la société. Donc, bon, c'est quand même, ça reste quand même des sommes assez énormes. Je me souviens plus du total de la valeur de Facebook s'ils sont effectivement à cette valuation. Je crois que c'est, ça pourrait monter à. On est, en fait, on n'atteint pas les 100 milliards, c'est ça?
Ouais, enfin, ce qu'il faut voir, c'est quand tu vas donner ta fourchette initiale, c'est pour donner au marché une indication de ta valeur. Donc aujourd'hui, c'est entre 75 et 85, je crois. 85 milliards de dollars. Mmh. Simplement, lorsque le marché va commencer à exprimer son intérêt pour Facebook, ce qui se passe, c'est que tu vas créer en quelque sorte ce qu'on appelle un order book de l'ensemble des intérêts des institutionnels, et tu peux être sûr que tout le monde va se ruer pour essayer d'acheter cette action. Mmh. Et donc on va commencer à voir, bon bah ok, on va la mettre à, tiens bah si on augmente $1, si on augmente de $2, et t'essaies en fait de trouver un prix qui va plus ou moins balancer l'offre et la demande. Et le problème, d'accord, c'est qu'avec Facebook, il va y avoir une telle demande, parce que c'est quand même l'IPO la plus visible, ouais, de la décennie, que même si la fourchette,
à ton avis,
aujourd'hui,
ça va exploser, quoi.
Ça peut exploser. Et si tu regardes en fait LinkedIn, qui est une bonne comparaison, parce que c'était quand même une très très belle boîte qui a très bien performé depuis sur le marché, les gens vont se dire, bon bah ok, même si j'achète Facebook à 120 milliards, je sais que sur le long terme, je m'y retrouverai, parce que si tu avais investi dans LinkedIn à 35 ou 40 quand ils ont flotté, je veux dire aujourd'hui l'action est à 110, quoi. Ouais, donc les gens vont appliquer la même philosophie ou théorie d'investissement, et je pense que Facebook flottera au-dessus des 100 milliards dès son premier jour.
D'accord. Bon. Bah, écoute, on verra bien comment ça se passe dans une ou deux semaines maintenant maximum, sachant que Zuckerberg garde le contrôle de la société quoi qu'il arrive.
Donc, oui, parce que de toute façon, il a... Un, parce qu'il a quand même encore une forte participation, donc directement il a une vingtaine, 25% de la boîte, mais derrière, il a fait signer par ses différents investisseurs un proxy pour les votes, où en quelque sorte ils disent, bah de toute façon, quoi que Mark dise, je vote en sa faveur, je vote comme lui. Donc à partir du moment où il va voter ses actions, il va emmener une grosse partie de ses investisseurs, et donc il contrôle complètement Facebook.
Est-ce que c'est une boîte et une entrée en bourse qui va faire des dizaines de milliardaires comme on en a vu auparavant quelques-unes?
Oui, puisque tu as déjà toute l'équipe de fondateurs, toute l'équipe de fondateurs qui sont blindés à mort avec quelques milliards chacun. Mmh. Donc Dustin Moskovitz, je crois qu'il est entre 7-8. T'as Sean Parker qui est à 6. T'as Savarin qui est à 2. Mmh. Et au fur et à mesure où l'action progresse, je pense que les 20 premiers.
Les quelques dizaines de premiers employés avaient des stock options au tout début, donc.
Oui, en gros, tu vas avoir quelques milliers de millionnaires qui vont, enfin sur le papier au début, hein, ouais, qui vont cristalliser le jour où Facebook fait son IPO, et tu auras, à mon sens, une bonne dizaine de milliardaires une fois que l'action suit son cours. Donc c'est vrai que en termes de création de richesses personnelles et d'impact sur le real estate dans la vallée, ça va faire mal. Hein, c'est clair.
Ouais, les maisons vont monter de prix. Est-ce que les gens peuvent vendre leurs actions immédiatement dès le premier jour?
Non, parce que tu as ce qu'on appelle un lock-up. Donc les gens vont être limités dans ce qu'ils peuvent faire au niveau vente actions, pendant 6 mois, pendant 9 mois. Et donc... ils sont en quelque sorte, ils ont signé un pacte, si tu veux, qui les limite dans ce qu'ils peuvent faire pendant 6 mois au minimum. Et d'accord, puis derrière, de manière à ce que tout le monde ne se retrouve pas à vendre transactions au même moment, ils ont typiquement, une convention qui dit bon bah tu peux en vendre 5% entre telle date et telle date. Puis après, tu peux revendre 5% entre telle date et telle date.
D'accord, simplement, c'est échelonné quand même.
Ouais. Simplement, ils ont eu la possibilité depuis quelques années de vendre leurs actions sur les marchés secondaires, soit dans des situations de gré à gré, où en gros, tu as des investisseurs qui disent « Tu me vends ton action Facebook à 30 milliards, je te l'achète. » Ou en passant par des espèces de... donc c'est un peu comme les marchés publics, sauf qu'ils sont pas publics.
Ça va,
donc,
Nicolas Poppy sur la chatroom dit « Le tapis va trop vite, Jeff est essoufflé. » Ça va, t'es pas trop... Non, ok, d'accord.
Non, je suis pas essoufflé. je réfléchis. Parce qu'en fait, je traduis je pense en anglais, je traduis en français. Et ça m'essouffle. Et donc, les marchés secondaires, comme Second Market ou SharePost, te permettent de dire, bah voilà, je suis intéressé à acheter du Facebook à 45 milliards. Est-ce que quelqu'un est prêt à me vendre des actions? Et si jamais il y a quelqu'un, un employé ou un actionnaire qui veut le vendre, bah à ce moment-là, SharePost organise la vente. Et
donc, il vend ses stock options, du coup, pas ses actions, puisqu'il n'y a pas...
Bah non, c'est des actions. Ils ne peuvent vendre que des actions.
Ah d'accord, ok.
Donc ça sous-entend qu'ils sont passés par une phase de vesting de leurs options et qu'ils ont acheté les actions correspondant aux options et ensuite qu'ils les vendent.
Et là, on parle des 500, de la limite des 500 actionnaires. Donc c'était quand même relativement limité, c'est bien ça?
C'était relativement limité, simplement. Bon, dans les faits, tu as moyen de passer au travers de la limite des 500 actionnaires, mais c'est vrai que c'était une contrainte pour Facebook dans la façon dont ils géraient la boîte, puisqu'à un moment, ils auraient été obligés, en gros, de déclarer leurs revenus et de mettre sur le marché le même niveau d'information que s'ils étaient publics. Donc, autant aller public et ramasser 10 milliards au passage, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ok, bon, donc ça c'était pour Facebook et on a leurs frères ennemis de Yahoo qui ont des petits soucis, ou en tout cas le président de Yahoo, le CEO de Yahoo qui s'appelle Scott Thompson. Il s'est passé un truc assez invraisemblable ce week-end. Le président de Yahoo, qui s'appelle donc Scott Thompson, a été victime d'un scandale, peut-être victime méritée, quand on a appris par un jeu de concurrence et de lutte de pouvoir dans le board, dans le... Ah, le board. Le cabinet, non ?
Le conseil d'administration.
Voilà, merci. pour une
c'est
fois, c'est moi qui
n'y arrive
pas. Ouais. Le conseil d'administration de Yahoo. Donc, cette sorte de lutte de pouvoir a ramené à la surface une question assez problématique pour ce cher CEO. C'était le fait que, dans son CV, il annonçait avoir un diplôme d'ingénierie informatique, hein, c'est bien ça, alors que, en fait, il ne l'aurait jamais obtenu. Et, bon, tout le monde ment un petit peu sur son CV. Le problème, c'est que, d'une part, lui, c'est pas n'importe qui, et d'autre part, il a été prouvé que c'était pas juste une petite erreur anodine et innocente, c'était vraiment, il a parlé avec des journalistes à deux reprises, et il leur a dit, oui, je suis diplômé de tel truc et de tel machin, et quand on a contacté l'université en question, ils ont dit, non seulement, on n'avait pas il n'a pas ce diplôme, mais en plus, à l'époque où il était chez nous, cette discipline n'existait pas dans notre université. Donc, ça pose un énorme problème parce que, non seulement déjà ça fait pas propre, mais en plus, avec cette lutte de pouvoir, les gens qui voulaient le mettre dehors pour mettre quelqu'un d'autre à leur place, pour se mettre eux-mêmes à leur place, appuient vraiment là où ça fait mal. Donc, on a un double problème qui fait que aujourd'hui, toute la presse tech se pose vraiment la question de que peut faire le conseil d'administration et Scott Thompson. Est-ce qu'on va le virer pour cette erreur? En même temps, si on le vire pas, Yahoo avait annoncé que n'importe quelle erreur ou tromperie dans le CV était passible d'un renvoi. C'est quand même une malhonnêteté flagrante. Ça fait vraiment la discussion. Enfin, c'est pas la chose la plus importante de la Silicon Valley, mais ça a vraiment fait beaucoup de bruit. J'imagine que beaucoup de gens en ont parlé autour de toi, Jeff.
Oui, parce que en fait, c'est vraiment la mauvaise nouvelle qui chasse la mauvaise nouvelle en ce qui concerne Yahoo.
Ouais.
Et c'est malheureux parce que fondamentalement, c'était une boîte qui était superbe. Mais après avoir péniblement récupéré Scott Thompson, pas mal de gens en fait se sont dit mais pourquoi lui? Parce qu'il n'a pas d'expérience au niveau pure média. C'est un mec qui vient du monde de l'e-commerce et du paiement.
Il était chez eBay avant, c'est ça?
C'était le patron de PayPal.
Ah, d'accord.
Et donc. Bon, grosso modo, les gens se disent, bon, surprenant, mais pourquoi pas, ok, allez, on accepte Scott Thompson et on va voir ce qu'il va faire. Et il était passé par une phase de restructuration, il a viré 2000 personnes, il a fait rentrer des consultants, il commence à jouer aux chaises musicales au niveau du management. Bon. Et puis, d'un seul coup, depuis plusieurs années maintenant, tu as un gros actionnaire de Yahoo. Don Loeb, qui est le patron d'un hedge fund qui s'appelle Triple Point, ou quelque chose comme ça. C'est pas Triple Point, c'est un autre nom. Mais bon, peu importe. Donc, ce mec-là a essayé depuis à peu près 2 ans de se faire élire sur le board de Yahoo. Parce que il dit, vous ne gérez pas nos intérêts correctement. Je veux, moi, Don Loeb, aller sur le board et je vais vous attaquer, je vais vous forcer la main, etc. Et c'est lui qui,
À faire
en
sortir de
analysant en
ça.
fait toutes les possibilités de rentrer en fait sur le board de Yahoo, qui a dit, tiens, c'est marrant, le Gus là, il a un double diplôme, accounting, donc gestion, et informatique, mais en fait, le collège, comme tu disais, ne faisait pas de diplôme d'informatique au moment où Scott Thompson y était. Et donc, Kara Swisher de All Things D, et retourner dans les documents qui ont été soumis par eBay lorsqu'ils ont fait rentrer Scott Thompson. Et effectivement, ce qui a été mis sur la SEC dans son site web ne contenait pas la notion end computer science. Par contre, à un moment, le double diplôme est arrivé sur la bio de Scott Thompson. Et le truc qui fait vraiment très mal, parce qu'ils auraient pu dire, bah écoute, c'est un mec du marketing d'eBay qui l'a fait. C'est qu'en 2009, Scott Thompson a été sur un interview dans un podcast avec Morgan, que je suis sûr que tu connais, qui l'interviewait, qui parlait de ses doubles diplômes, et il lui a dit, oui, effectivement, nous les ingénieurs. Donc, c'était plus une erreur cléricale, c'était en gros, il a gonflé son CV, il pensait que c'était anodin, et objectivement, pour un mec comme Thompson qui a une vingtaine d'années d'expérience, peu importe s'il a un diplôme d'informatique ou pas, c'est pas ça qui va changer sa capacité de gérer Yahoo, d'accord?
C'est ce que disaient
Par
les gens dans
contre,
la chatroom. Ils disaient s'ils font ses preuves, pourquoi pas.
mais oui, mais il a menti. Il a menti. On dit en anglais doctored. Il a changé son
Trafiqué.
CV. Il a trafiqué son CV. Et donc, si tu n'es pas capable de lui faire confiance sur une chose aussi
C'est là
basique que
que,
son CV, en quoi tu veux lui faire confiance? Je veux dire, c'est pas possible. Et donc, s'il s'avère que Yahoo n'a pas fait le truc de base pour des CEO de ce type, c'est tu embauches une agence qui va aller vérifier tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire sur son CV, et donc ils vont appeler les gens, ils vont appeler. Je veux dire, quand j'ai levé mon fonds, on m'a demandé une copie de mes diplômes, on m'a demandé une copie de mon casier judiciaire qui est vide, n'est-ce pas? Et il y
Bon,
a
je sais pas, hein,
donc
peut-être, moi je l'ai
il y
pas
a non
vu.
mais je le déclare,
D'accord.
je le volontarise. Et il y a quelqu'un qui a été passer des coups de fil, appelé en France, etc., pour vérifier que tout ce que j'avais dit était véridique. Et ça, c'est une approche de base. Donc ça veut dire que quelqu'un chez Yahoo n'a absolument pas fait son boulot.
Ce qui était aussi une
Et
des critiques qu'on a entendues pendant le scandale, oui.
tout à fait. Et donc aujourd'hui, le board est en train de se gratter en se disant qu'est-ce qui nous arrive encore? Et si jamais il s'avère que Thompson les a plantés comme ça au milieu du gué avec un CV qui a été trafiqué,
Ce qui a
j'ai du
l'air
mal à
d'être le cas
voir,
pour le coup.
ce qui a l'air d'être le cas, j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à le garder, parce que ça veut dire qu'il n'a aucune crédibilité. Et quand tu parles aux gens qui sont restés chez Yahoo, et je peux dire qu'il y en a plus des masses, ils se disent, mais attends, si moi je fais ça, je me fais virer instantanément,
Ben
pourquoi
oui.
pas lui?
Oui, c'est sûr. Mais et alors toi, si jamais tu as une situation similaire dans une des entreprises dans laquelle tu as investi, est-ce que tu dis non mais c'est pas possible, il faut le virer, ou est-ce que tu dis oui bon il est quand même. Enfin là en l'occurrence le truc c'est que il a pas vraiment encore fait ses preuves, le garçon chez Yahoo. Il est arrivé il y a pas très longtemps, mais le truc qu'il a fait, enfin, il a fait deux trucs qui ont marqué les esprits. D'une part, dégraisser, donc il a renvoyé des gens, et d'autre part, il a collé un procès à Facebook à un moment. Enfin, c'était sans doute opportun financièrement, mais c'était pas hyper fair play. Donc, je suis pas certain que ça joue. C'est pas un trait de génie qui joue en sa faveur, mais. Mais bon, effectivement, disons, demain, toi, Jeff, tu as tout pouvoir au board de Yahoo. Est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le vires ?
Je pense que c'est une.
Moi,
une
je saurais pas répondre. Hein, c'est hyper.
C'est une question compliquée parce que tout dépend en fait. Là, c'est là où tu dis, mais qu'est-ce que t'as. Enfin, tu m'expliques maintenant pourquoi t'as fait ça. Parce que ouais. Franchement, est-ce que c'était un truc innocent où tu dis, bah tiens, ça fait mieux si j'ai gestion et informatique sur mon CV plutôt que juste, oh bah, je suis un crétin qui fait de la gestion. J'ai rien contre les gens qui font de la gestion. By the way. Et t'essaies de comprendre s'il a juste fait, tu vois, un dérapage à la noix en essayant de tu vois, un peu de marketing personnel, et ouais. Tu essaies de voir si c'est juste une approche systématique pour le mec qui est que bah tu vois il va couper les il cut corners donc il va prendre des raccourcis avec le business etc ouais. et pour une boîte comme Yahoo c'est pas possible ouais. Donc c'est plus fondamentalement essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait d'autre ou qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre plutôt que juste le côté CV, etc. Le problème, ouais. C'est que avec une perte de crédibilité aussi publique que celle que l'on a ici, et le fait que, je veux dire, ils ont quand même mis sa bio officiellement sur le site de la SEC, donc ils ont dit à l'autorité de régulation des marchés financiers américains, le GUS, il a ce diplôme. Ouais, mentir à la SEC, c'est pas bon. D'accord? Il y a des gens qui vont en taule pour ça. Donc, ça va vraiment avoir des répercussions potentielles qui sont énormes. Et j'ai du mal à voir comment il peut continuer à gouverner la boîte, quoi.
Et l'une des raisons peut-être pour lesquelles certains dans la chatroom ou d'autres ne se disent non, mais quand même, faut le virer, machin, il a quand même extrêmement bien géré PayPal. Aujourd'hui, PayPal, c'est le système de paiement sur Internet. C'est devenu un système de paiement incroyablement important. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se dit, ce mec, c'est pas un abruti. Il y a peut-être des raisons de le garder. Et Yahoo le voyait vraiment comme un type qui va redresser les choses. Donc, c'est pas juste un type qu'ils ont sorti de nulle part et qui, en plus, a menti sur son CV, quoi. C'est ce point que je voulais soulever.
Donc, tu as raison. Je pense qu'il a fait un bon... Tu sais, il a fait un bon boulot chez PayPal. Je pense que John Donahue, le mec qui fait tourner eBay aujourd'hui, c'est un mec assez exceptionnel. Donc, est-ce que c'est Scott Thompson? Est-ce que c'est le combo John Donahue, Scott Thompson? Ouais. J'avoue que j'en sais rien parce que j'ai pas de vision interne de PayPal. Le nouveau CEO, je suis désolé de la faire encore, mais c'est mon très bon copain David Marcus. Qui est l'ancien CEO de Zong, qui a été racheté par PayPal il y a à peu près 6 mois, et donc qui s'est retrouvé parachuté à la tête de PayPal. Et c'est un mec qui est absolument génial, donc je suis sûr qu'il fera un très bon boulot. Donc c'est vrai que Scott Thompson, c'est pas un abruti, ça c'est sûr. Le problème, si tu veux, c'est que quand on regarde ce dont Yahoo a besoin, le profil typique d'un CEO de Yahoo qui est plutôt orienté média, advertising, etc., Thompson, bon, c'est un mec qui est pas con du tout, mais c'est pas exactement le profil auquel tu t'attendais. Ouais. Et ce qui se dit.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
là encore, j'en sais rien, c'est que c'est lui ayant eu vent de la recherche de CEO que faisait Yahoo, ouais, qui s'est en gros dit, proposé en disant « Eh les gars, moi, parce que moi, je sais le faire, quoi. »
Ouais. Et disons que déjà, ça, c'est, enfin, ça devait ressortir à un moment. C'est pas hyper malin, quoi, quand t'es à ces niveaux-là. Enfin bon.
Ouais. Bah ouais, mais comment tu fais ? Imagine le mec, un jour, il se dit, oh, bah tiens, je vais rajouter N Computer Science. Tu vois, c'est bénin. Ouais. Tu le mets sur ta bio, et puis après, bah, ta bio, elle est copiée, tu vas dans les conférences, etc., etc. Ouais. Et puis d'un seul coup, c'est sur Internet, c'est partout, tu peux plus l'enlever,
tu peux plus
le défaire. Et donc, ouais, tu deviens prisonnier de ton propre mensonge. Et soit tu
oui,
dis,
mais enfin, c'est pas une excuse non plus, quoi. Je veux dire, chérie, au début, je voulais pas te dire que je travaillais pas le soir, que j'allais voir ma maîtresse. Mais après, j'ai été prisonnier de mon mensonge. Bah oui, c'est quand même pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une excuse de se dire. Au début, j'ai menti, et puis finalement.
T'es en train de nous avouer quelque chose, ou t'es juste en train de prendre un exemple ?
Ah, tu parles, ma fiancée est à l'étranger depuis 2 semaines, j'en peux plus, je désespère, je décrépis. Pardon ?
Non, je fais une mauvaise blague, donc je ne la recommencerai pas.
Ok. Bon, parlons plutôt d'autre chose de bien plus réjouissant, ou pas. En fait, c'est la bulle dont on nous parle depuis bien longtemps, la bulle Internet version 2, qui a donné lieu à pas mal de discussions cette dernière semaine, peut-être un petit peu plus, dans la Silicon Valley, avec un truc qui n'arrive pas souvent dans ces sujets-là, des retours de, enfin des discussions par articles de blog interposés où les gens plaisantaient un petit peu. C'était assez intéressant la manière dont ça s'est passé. Certains disaient oui, là c'est la bulle évidemment. D'autres qui faisaient mais non, vous plaisantez, il n'y a pas de bulle et vous êtes en train de raconter des âneries. Enfin, puisque tu es au cœur de cet environnement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et quelle était la conclusion de toutes ces discussions, si tant est qu'il y en ait une ?
Bah, y a pas de conclusion, parce que c'est une discussion sans fin, où tu vas avoir une partie des gens qui disent il y a une bulle, les valorisations ont décollé, c'est n'importe quoi, et il y a des gens qui disent oui, c'est vrai que les valos ont explosé, mais bon, quand on regarde le type de boîte qui est en train d'être montée, c'est beaucoup plus justifiable que ça l'était par rapport à la précédente bulle Internet. En gros, le catalyseur de cette discussion, ça a été l'acquisition d'Instagram par Facebook pour $1 milliard, et je rappelle que 70% de la considération de l'acquisition, c'est des stocks Facebook. Et donc, même si la valeur du deal, c'était 1 milliard, je pense qu'il est assez logique de dire que dans quelques mois ou quelques années, la valeur du deal, ce sera à peu près 2 milliards. D'accord ? Donc, pour une boîte qui avait 16 mois, 13 personnes et zéro de chez zéro en revenus, mais...
Et zéro perspective 30... en plus, c'était... C'est pas qu'il y avait des idées de monétisation qu'on connaissait en tout cas particulièrement intéressantes.
Non, parce qu'il s'était même pas posé la question.
C'est ça,
parce
oui, que, exactement. Lionel G dit dans la chatroom, règle numéro 1 des bulles spéculatives, il y a toujours des gens pour dire que la bulle n'est pas une bulle et que ça va continuer à monter indéfiniment. Évidemment, c'est le cas. Je lui opposerai aussi le fait que il y a toujours des gens pour dire que il y a une bulle, même quand il y en a pas. Ça va un petit peu dans les deux sens.
Donc, et vous avez tous les deux raison. Et donc là, parce que tout dépend de quelle perspective on se place. Et donc les gens ont dit, si une boîte comme Instagram, qui avait zéro revenu et 35 millions d'utilisateurs, et aujourd'hui ils sont proches de 45 ou 50, donc c'est une boîte qui est en train d'exploser en termes d'utilisateurs et en termes d'engagement, si une boîte comme ça, après 15 mois, peut valoir 1 milliard, c'est n'importe quoi, c'est la bulle, blablabla. Et donc, c'est ce que le mec du New York Times a écrit. Et donc derrière, t'as beaucoup de gens qui ont dit « Mais non, il n'y a pas de bulle, tu comprends rien, t'es qu'un crétin, t'es qu'un journaliste. » Moi, la blague que j'ai fait, c'était à la fin du mois. Et donc j'ai dit « Bah tiens, le mec, il devait être en manque sur son quota de page views. Et donc, quand tu vois des page views, il suffit que t'écrives à propos de la bulle et t'es sûr que ça va réagir. »
Forcément.
Et en fait, pour moi, parce que bon, évidemment, je suis en plein cœur de ça.
Pour ceux qui ne savent pas, Jeff est VC dans la Silicon Valley, donc venture capitaliste.
Donc, je suis un capital risqueur, donc j'investis dans des petites startups en espérant que, ben, un jour, ça devienne un Twitter, un Facebook, un Instagram, pourquoi pas. Et donc, la grosse question pour moi, c'est si tu dis qu'il y a une bulle, c'est si jamais cette bulle explose, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet sur l'économie? Et si on se rappelle de ce qui s'est passé en 2000, lorsque la bulle Internet a explosé, le Nasdaq a complètement dévissé, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés rincés parce qu'ils avaient mis, ils avaient emprunté sur leur maison pour acheter des stocks Internet parce que les stocks Internet continuent à monter. Et aujourd'hui, quand on regarde, et c'était un des meilleurs papiers qui ont été écrits sur ce sujet, c'est Chris Dixon, qui a fait un papier en disant, bah voilà, voilà les effets d'une bulle, voilà pourquoi aujourd'hui on n'est pas vraiment une bulle. C'est que quand on regarde à combien est-ce que la plupart des boîtes Internet vont trader sur le marché en termes de multiples de profits, ça reste très très raisonnable. Et donc, à partir du moment où l'effet de contraction d'une explosion de la bulle ne ferait que toucher bah, des gens comme moi ou des gens qui sont des business angels qui mettent leur propre argent dans les boîtes ou des VC, en gros,
et pas des gens normaux entre guillemets qui auraient investi dans ces valeurs qui se cassent la gueule. C'est ce que tu veux dire.
Voilà, à l'exception de Groupon, ou si jamais t'achètes du Groupon, là tu sens bien. Donc, avec quelques exceptions. Ouais. Tel Groupon ou Renren qui sont un peu à la rue. Je veux dire, si t'as acheté LinkedIn le jour de l'IPO, aujourd'hui, tu te sens bien, hein, parce que t'es 2x hein, avec une boîte qui marche vraiment très bien.
Oui, mais c'est ça le principe de la bulle, ça grossit jusqu'au moment où tout se casse la gueule. Donc,
oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une augmentation des valorisations au niveau des boîtes dans lesquelles moi j'investis, c'est-à-dire que là où une boîte t'investissait à 3 ou 4 millions, tu vois, je me gourme même d'unité maintenant, 3 ou 4 millions, voire 5 millions de dollars de valo au niveau jeune pousse, maintenant tu vas avoir des deals que tu fais à 6, 7, 8. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'intérêt, tellement de demandes à notre niveau, que même des gens comme nous qui avons pignon sur rue et sommes capables en fait d'avoir un prix plus raisonnable que le clampin moyen, on est obligé d'augmenter la valorisation à laquelle on investit pour avoir accès au deal. Mais c'est pas une explosion complètement débile, parce que tu vois le type de boîte que l'on monte aujourd'hui, c'est des boîtes qui peuvent décoller extrêmement rapidement, et la plupart de nos boîtes sont des boîtes qui font du revenu. Hein. Tu vois, une boîte comme Fab.com, qui est une boîte de flash sales, basé à New York, c'est incroyable le montant de fric qu'ils font en vendant leur truc. C'est incroyable. Et donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a des plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit le mobile, que ce soit le social, etc., qui nous permettent de monter des boîtes de très forte valeur, qui vont générer énormément de revenus et de cash, avec une vélocité qui est 4-5 fois ce qu'on avait, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans. Et ouais. Donc, ça explique que tu retrouves des boîtes. Tu vois, j'investis dans Fab à 5 millions de prix. Je veux dire, aujourd'hui, Fab, si tu faisais un tour, ça vaudrait, je sais pas, entre 300 et 500 millions. C'est sur le papier, mais ça vaudrait ça. Et tu peux le justifier par le montant de revenus et le nombre de ventes qu'ils font chaque jour. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une pression à la hausse sur les valorisations. C'est vrai que Instagram, j'ai aucun moyen de justifier la valeur de 1 milliard. Si ce n'est, ça a été ma première réaction quand j'ai entendu le montant, j'ai dit, mais c'est que dalle, c'est 1% de Facebook, c'est rien. Ouais. Et Zuckerberg a été super smart d'acheter Instagram pour 1 milliard. Parce que quand on se rappelle de YouTube et de son acquisition pour 1,65 milliard par Google dans les années 2006,
c'est à peu près ça.
Et bah c'est une acquisition qui n'avait aucun sens à l'époque, mais il se trouve que ça a été une acquisition les plus qui a eu le plus de sens sur les 10 dernières années.
Et donc, c'est sûr que
je pense qu'aujourd'hui on contemple avec Instagram l'équivalent de YouTube, mais cette fois-ci acquis par Facebook.
Ouais. En tout cas, il y a un potentiel, c'est sûr.
Et en tout cas, c'est une exception. Et donc, il ne faut pas se dire ah bah voilà, Instagram change tout. Parce que même dans nos cercles, je veux dire, désolé, c'est un de mes bons copains,
Alors, vas-y, hein,
toi, le mec qui a mis de l'argent à, chez un staff, enfin, c'est pas un si bon copain que ça parce qu'il m'a pas laissé entrer sur le deal, enfoiré. Donc, Steve Anderson, le mec qui a donné son site financing à Instagram, et donc le mec il a investi à 2 millions de prix, quand il a mis 250 000 dollars, et bah, le mec il a fait une sortie à 1 milliard en l'espace de 15 mois, ça n'existe pas, jamais personne l'a fait.
Ouais, c'est bon, vraiment bah,
lui,
le truc.
Lui, il peut, bon, il peut partir là maintenant.
En même temps, de l'autre côté, on a effectivement des exemples comme Groupon et des exemples comme OMG Pop qui a été racheté, on en parlait il y a quelques semaines à peine, par Zynga pour 200 millions. Peut-être que dans les des deux côtés, c'est des exceptions. Et ce que tu es en train de dire, parce que OMG Pop est en train de n'était valorisé que sur un seul jeu, Draw Something, dont on avait parlé, qui visiblement serait en train de perdre de son attrait depuis quelque temps. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que oui, il y a une montée des valorisations des sociétés dans leur ensemble, mais que d'une part, c'est pas une montée complètement extravagante dans ce qu'on a pu voir avant. Et que d'autre part, c'est une montée qui est justifiée parce qu'il y a effectivement de la valeur qui est créée par ces sociétés et que il y a enfin, c'est même pas une question de multiples exemples, mais c'est là que l'argent est en train d'aller en ce moment. Donc c'est justifié, c'est pas juste du vent, quoi. C'est ton analyse en tout cas.
C'est ça ? Si tu veux, c'est le problème, c'est que je suis à la fois juge et partie, puisque par définition, chaque jour, je vais rencontrer quelques entrepreneurs, à peu près. Une fois, deux fois par mois, je vais dire oui, j'investis, et donc je construis un portefeuille de ces types de boîtes, à peu près, tu vois, une vingtaine de boîtes par an. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de dire bah non, il n'y a pas de bulle, parce que ce que je vois pour moi, ça a du sens. Et malheureusement, c'est que dans tu vois 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on pourra regarder en arrière en se disant oh putain, qu'est-ce qu'on était con d'investir dans ce truc-là. Ou alors, si tu veux, là pour le moment, la décision risquée qu'on a prise au mois de mai l'année dernière, donc il y a même pas un an, d'investir dans Fab, on se sent bien sur ce coup-là, là, tu vois. Ouais. Bon, on sait pas du tout où ça va aller, ça peut très bien s'exploser, ça peut très bien essayer de grossir trop vite. Donc c'est pas parce que t'as eu une lancée aussi spectaculaire sur la première année, puisque la boîte, ça fait même pas un an qu'ils ont lancé le service, mais c'est ce à quoi tu es exposé aujourd'hui. C'est t'as des boîtes qui deviennent des monstres en quelques ouais. mois ou en quelques années. Et donc, c'est vrai, parce que bon, j'ai
mais
ramassé.
C'est pas la loterie, quoi, c'est pas le c'est que. C'est ça qui est important finalement. Selon toi, il y a des risques réfléchis, mais c'est pas la folie qu'il y avait. Bon, encore une fois, comme tu le dis, c'est difficile de juger quand on est en plein milieu. Mais...
Oui, mais ce que je dis, c'est que il y a 10 ans, puisque bon, j'ai débarqué dans la vallée il y a 12 ans, d'accord. C'était en août 2000, et c'était à peu près 4-5 mois après l'explosion de la bulle qui était en mars de cette année-là. Et je peux te dire que c'était vraiment la boucherie et il y avait tout et n'importe quoi qui s'était passé, où tu avais des millions, des dizaines de millions de dollars qui avaient été dépensés en marketing, dans des journaux comme le Red Herring, etc. Je veux dire, tout ça, tu ne le vois plus. Je veux dire, il y avait c'était impossible d'acheter des serveurs Sun à 1 million de dollars le serveur, parce qu'il y avait tellement de demandes, ou c'était 100 000 dollars, enfin bon... énormément, enfin très 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 cher. Aujourd'hui, je veux dire, tu te mets sur EC2, l'infrastructure d'Amazon, t'as pas besoin de dépenser tous ces montants. Donc, il y a déjà en gros, la façon dont moi je le regarde, c'est ce qu'on appelle le cost of failure, donc le coût du plantage. Et le coût du plantage d'une boîte dans sa première phase, ça va être 1,5 million. Et donc, quand on se ramasse, nous,
donc on peut
se ramasse
plein de trucs, quoi.
Donc on peut essayer plein de trucs. Genre, on se ramasse tous les jours. Je veux dire, on a planté. On a planté entre 15 et 20 boîtes en 8 ans, ce qui est pas énorme, mais bon, ça fait chier quand même, quoi.
Oui,
et si tu regardes les montants qui ont été perdus, c'est pas énorme. Donc,
c'est vrai.
Donc, si tu regardes, en fait, tous ces éléments, et c'est pour ça que l'essai de Chris Dixon était vraiment très très bien fait, où il essaie de peser le pour et le contre, c'est vrai qu'il y a une tension aujourd'hui au niveau de l'amorçage, mais est-ce que c'est une grosse bulle Internet? Non.
D'accord. Bon, c'est sûr. Si vous voulez en savoir plus, l'essai est en anglais sur cdixon.org, cdixon.org, et ça vous éclairera peut-être un petit peu plus, si tant est qu'il soit possible d'être éclairé dans cette histoire. Je crois que simplement, comme tu le disais tout à l'heure, chacun a son opinion qu'on peut expliquer d'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans l'autre, mais véritablement, pour savoir qui avait raison, il faudra attendre quelques années et regarder en arrière, quoi. Autre chose dont on voulait parler, et là il va falloir regarder en avant et donc pas forcément savoir exactement ce qui va se passer, c'est le fait que vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que la France a connu un moment important de son histoire cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, avec l'élection présidentielle. François Hollande a été élu président de la République, et même si je suis féru de politique, je vous éviterai mes divagations politiques dans cette émission, parce que c'est pas le sujet, je les réserve plutôt à Google+. Mais par contre, ce dont j'aimerais parler, c'est de ce qu'on peut attendre de Monsieur Hollande au niveau du numérique et de l'informatique et du web. Gizmodo a fait un petit résumé en quelques points de ce qu'ils avaient, c'est gizmodo.fr hein, bien sûr, de ce qu'on pouvait attendre d'après ces déclarations de ces derniers mois. Et donc je vais vous résumer un tout petit peu cet article. D'une part, l'aménagement, il veut déployer le haut débit sur tout le territoire français, sachant que le haut débit, c'est pas non plus les infrastructures qu'on connaît en Corée ou, ou au Japon. Il dit d'ici 10 ans, il veut que tout le monde ait une offre triple play et que dès la fin du mandat de M. Hollande, donc dans 5 ans, plus personne ne soit en dessous de 1 méga. Bon, c'est très bien, je pense que c'est important pour l'infrastructure Internet de la France, pour nous et sans doute pour vous qui écoutez cette émission, je pense que ça va pas nous changer la vie. Moi j'aimerais bien qu'on ait des grands plans d'aménagement genre tout le monde à la fibre d'ici 6 mois, mais évidemment c'est des choses qui coûtent extrêmement cher, c'est pas forcément possible à faire facilement. Autre chose, que va-t-il arriver à Adopi ? Alors, c'est un petit peu le mystère. Il a déclaré qu'il fallait élargir la loi pour qu'elle n'inclue pas seulement le problème du piratage et que ça combatte les plateformes délocalisées et incontrôlables. Bon, là, je crois qu'il y a un petit peu d'imprécision. C'est pas très bien en quoi ça consistera. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il va pas abroger Adopi. En tout cas, c'est pas ce qu'il a l'air de dire. Donc, si vous espériez l'abrogation d'Adopi, a priori, c'est pas au programme. Une chose, par contre, qui pourra être intéressant pour les défenseurs de la liberté sur le net, c'est ce qu'on appelle le habeas corpus. Ce que ça veut dire, c'est un terme légal généralement qui veut dire le droit de ne pas être victime de fouilles non justifiées. Et sur la question du net, ça veut dire qu'il faut que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, ait plus de pouvoir pour contrôler les actions des uns et des autres pour protéger les usagers d'Internet. Alors, il n'est pas certain que ça s'applique spécifiquement à la propriété intellectuelle et donc à ce qu'on appelle communément le piratage. Par contre, à mon avis, ce que je vois, si effectivement ça va dans ce sens-là, ça serait plutôt pour les questions de vie privée et de... Bon, là encore, on n'est pas encore certain, mais donner peut-être un petit peu plus de pouvoir à la CNIL, qui est l'un des organes qui protège les utilisateurs sur Internet, c'est peut-être une bonne chose. Il faut pas forcément que ça aille trop loin non plus, parce qu'on sait que parfois, quand certains organismes ne comprennent pas exactement comment fonctionne Internet, ils peuvent avoir des demandes exagérées. Mais bon, a priori, moi, je vois ça comme plutôt quelque chose de positif. Je vais vous passer un petit peu le couplet sur la jeunesse et la formation, qui est très positif aussi, où l'idée est de dire qu'il faut plus de développeurs, plus de programmateurs, d'administrateurs réseau. Effectivement, il est clair que l'informatique et les métiers du web sont un domaine qui est une ressource de croissance importante. Et si c'est dans cette direction qu'il faut s'orienter, moi, je vais pas dire non, hein, je vis tous les jours Internet, sans doute comme vous. Donc oui, moi je dis ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, une chose qui est à peu près alignée avec certaines déclarations de l'ancien président, qui est encore président pour quelques jours, Sarkozy, la question de l'international avec la question des géants américains principalement, qui ne payent que très très peu d'impôts en France, alors qu'ils ont, du fait qu'ils travaillent sur Internet, une grosse activité en France. On pense à Google ou d'autres hein, qui travaillent directement avec la France et qui font beaucoup de business en France avec les AdWords, etc. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, mais qui ne payent pas des impôts sur tout ça en France. Et là, ils voudraient corriger un petit peu ce problème. Là encore, je l'avais dit quand c'était les déclarations de Sarkozy, je suis pas convaincu de... D'un côté, on se dit, bah oui, il y a quand même du business qui est fait en France, mais ils ne payent pas d'impôts dans le pays où ils font du business. Mais en même temps, ils sont pas en France. Enfin, il y a certaines sociétés qui sont pas en France, donc ils devraient pas payer sur des trucs qu'ils ne font pas en France. Pourquoi est-ce qu'ils devraient payer ? C'est compliqué et j'ai pas de réponse là-dessus non plus. Donc bon, si François Hollande réussit à trouver des réponses, bah écoutez, j'écouterai avec attention et pourquoi pas, peut-être qu'il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Jeff, rapidement, une réaction à tout ça ou ça a été très très loin de tout ça ?
Non, je pense que c'est dans le domaine du raisonnable. Je pense que objectivement, tout le monde attend Hollande sur la partie budgétaire. Est-ce qu'il va couper les coûts ? Est-ce qu'il va lancer des programmes d'emploi massif dans l'enseignement, etc. Comme il s'en est vanté dans sa campagne. Et moi, je votais de l'autre côté, hein, juste pour être clair. c'est plutôt là qu'on va essayer de voir si la France devient aussi damnée que les Grecs, ou si on reste un statut un peu plus enviable. Je pense que sur la partie internet, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme toi, je pense que volontairement aller vers la fibre et un déploiement de la fibre, ce serait positif, mais bon, ça, c'est coûteux et c'est un peu en dehors des mains du gouvernement, puisque c'est des choses qui sont faites au niveau privé par les différents opérateurs.
Oh, le gouvernement pourrait lancer un plan de
rationaliser les taxes de l'e-commerce et de l'internet. C'est un problème général que tout le monde a, puisque les grands groupes se sont vraiment très bien structurés pour éviter de payer des impôts à tout le monde. C'est-à-dire que tu regardes un petit peu combien
ils payent. Il y a les mêmes problèmes aux
États-Unis, hein. C'est pareil. Ils s'arrangent pour essayer de défiscaliser au maximum. Ouais. Et objectivement, la notion de taxation d'Internet est quelque chose que tous les gouvernements essaient de comprendre pour essayer de bénéficier de l'effet tracteur au niveau de l'économie, mais aussi en récupérant un peu plus de taxes, quoi. Donc de ce côté-là, je pense que ce programme-là est relativement raisonnable.
D'accord. Bon, écoute, ça, on aura effectivement le temps de voir ce que ça donne dans les mois à venir aussi. Mais je voulais...
Allô ?
Je suis sûr que... Oui, allô ? Tu ne m'entends plus ? Ah, je pense que la chatroom m'entend toujours, mais toi, tu ne m'entends plus. Jeff ? Ah. Bon, je vais raccrocher avec Jeff et le rappeler. Vous m'entendez toujours, hein, dans la chatroom ? Oui, oui. Jeff, m'entends-tu maintenant ?
Désolé.
Oui, c'est pas grave.
Tu m'entends ?
Oui, 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 je t'entends. Mais toi, tu ne m'entends pas.
Allô, allô.
Ah, bon. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On est en train de perdre Jeff et la chatroom m'entend. Donc, voilà, c'est étrange. Je vais faire une toute petite pause et je reviens. Et nous revoilà. Jeff nous trollait Microsoft en disant que Skype est un logiciel Microsoft, donc que ça ne marche forcément pas bien. Tu sais que t'es le seul avec qui ça marche pas, hein, donc ils t'ont ciblé spécifiquement.
Bah oui, mais si tu veux, j'ai un MacBook Pro, j'ai un MacBook Air, je suis sur une télé Apple, je sais plus rien.
Télé Apple, un écran, tu vois.
Non, l'écran 27 pouces Apple.
D'accord, oui, forcément. Écoute, de toute façon, on va continuer l'émission et on en était au message du sponsor, ou plutôt des sponsors, devrais-je dire, puisqu'on a deux sponsors aujourd'hui, le premier étant la Comic-Con Paris. L'année dernière, on y était déjà, donc vous savez un petit peu de quoi il s'agit. C'est le grand rendez-vous de toutes les cultures de l'imaginaire. En gros, c'est, vous connaissez la Comic-Con aux États-Unis, et à Paris, il y a l'équivalent, et c'est du... que je dise pas de bêtises, du 5 au 8 juillet, il y a énormément de choses à voir là-bas. Il y a évidemment plein de comics, des gens en cosplay marrant, des jeux vidéo, des mangas. Enfin, c'est une grande fête de la culture geek en France. Et il se trouve que No Watch y sera aussi. Comme je vous le disais, on y était déjà l'année dernière. Et bien cette année, on y sera plus beau, plus fort, plus grand, plus tout. Donc on vous invite à venir aussi d'ici quelques jours seulement. La bannière Comic-Con Station sera disponible sur le site nowatch.net. Et si vous pouvez passer par le site nowatch.net pour acheter vos billets, ça nous ferait très plaisir. Et on vous encourage dans tous les cas à le faire et à venir nous dire bonjour. C'est plusieurs jours, comme je le disais. Et moi, j'y serai normalement, j'espère, le vendredi et le samedi. Donc, si vous avez un jour à choisir pour y aller, venez nous voir à ce moment, ça nous ferait très plaisir. L'autre sponsor, c'est le Fan Shop No Watch. Comme on vous en parle depuis un certain temps, la boutique a changé en fait. Maintenant, il y a deux boutiques. La première étant le workshop qu'on a fermé pendant quelques temps et qui va revenir pour la confection personnalisée de t-shirts qui est gérée par Spreadshirt. Mais pour le moment, la boutique principale, c'est le Fan Shop qui est entièrement géré par No Watch et qui vous offre des objets, des goodies d'une part à des tarifs un petit peu plus raisonnables. Ça commence à 5€. C'est vrai que les t-shirts et les objets qui étaient sur l'ancienne boutique étaient un petit peu plus chers. Mais en plus de ça, ils sont vraiment super beaux. Il y a des badges, des planches de stickers métal. Il y a des planches de stickers. Enfin, je sais pas si vous connaissez exactement, mais c'est des stickers plastiques qui ont un dôme en plastique. Il y a des sortes de décalcomanies, des planches vinyles pour décorer vos smartphones ou vos phones qui sont même pas smart, ou vos ordinateurs portables, etc. Donc, c'est une nouvelle boutique qui vous offre des nouveaux produits plus abordables et qui, en plus, file plus de sous à No Watch parce que c'est nous qui la gérons entièrement. Et comme le dit Jérôme de temps en temps et Cédric aussi, c'est avec de la sueur de podcasteurs puisque c'est les podcasteurs qui font les paquets. Donc, voilà, c'est doublement, triplement un plaisir. Donc, la Comic-Con Paris et le Fan Shop No Watch, ce sont les deux sponsors de cette émission. Et on vous remercie dans tous les cas de faire un tour par là-bas. Et on passe donc maintenant à quelques news et rumeurs, donc des zap-infos comme je le dis de temps en temps. C'est la partie où on va vous parler de quelques infos un petit peu plus rapidement qu'on voulait évoquer mais qui ne nécessitent pas forcément une discussion longue et complexe. La première d'entre elles, c'est l'arrivée du Google Drive, le fameux G Drive, qui était une sorte de serpent de mer depuis des années et des années, qu'on avait évoqué la dernière fois. Et qui est enfin disponible depuis une petite dizaine de jours. C'était un petit peu... Bon, alors en gros, si vous connaissez Dropbox, c'est un peu Dropbox, l'équivalent. Sauf que les documents qui sont des documents Google Docs, que sans doute beaucoup d'entre vous utilisent déjà, ne seront pas hébergés sur votre machine en local, mais hébergés sur le web comme ils l'ont toujours été. Donc vous avez une sorte de modèle mix. Le problème, à mon sens, il y a deux problèmes. D'une part, les documents Microsoft Office, par exemple, ou Pages, si on est sur Mac, ou iWorks, ne seront pas... On peut les stocker là-bas, mais on peut pas vraiment les éditer sur le web, bien sûr, puisque sur le web ne sont éditables que les documents Google Docs. Donc, ça ne transforme pas tout votre répertoire de documents en documents vraiment mobiles. Donc, je suis pas certain de l'immense intérêt par rapport à un service comme Dropbox. Et d'autre part, à mon sens, il y a un autre petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que cette solution ne se défait pas du système de fichiers dont on parle souvent, du système de fichiers, dossiers, arborescence, tout ça, qui est malgré tout, je sais que c'est très très simple pour vous, mais pour certaines personnes un petit peu compliqué à comprendre, et j'aimerais qu'on voit une évolution de ce système un jour. Et on n'y est pas encore. Là, c'est vraiment... Je pense qu'ils ont retardé l'arrivée de G-Drive pour voir s'ils pouvaient trouver une autre solution avec des systèmes innovants comme ce qu'ils ont, les labels sur Google Mail, par exemple, était un système qu'on pouvait imaginer. Mais ils ne l'ont finalement pas implémenté. Donc, c'était une petite déception pour moi. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui changeait. Jeff, toi, t'es séduit par Google Drive ou non plus pas?
Bah, comme tu disais, c'est le serpent du Loch Ness, hein, ou le monstre du Loch Ness. On entend parler depuis des années et finalement, pouf, il a pointé sa tête. Je pense que si tu es un gros utilisateur de Google Docs, l'infrastructure Google,
etc.,
d'App Engine,
mais...
Ça a du sens, mais objectivement, si tu as déployé Dropbox, tel que nous on l'a fait au sein de Softech, et que tu en es très très content, bah c'est pas pour les quelques fonctionnalités supplémentaires que tu vas passer sur le truc, quoi. Et c'est ça en gros le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de solutions, elles marchent bien. Bon, clairement, Dropbox ou les autres solutions n'ont pas atteint ne serait-ce que quelques pourcents du marché à l'adressable. Donc c'est quelque chose que Google peut déployer avec succès. Mais dans le marché des early adopters, donc les gens comme toi et moi, je pense que bah j'ai pas encore vu ou entendu de raison pour considérer changer de fusil, quoi.
Ouais, c'est ça qui était un petit peu décevant. On a tellement attendu que bon. Autre nouvelle, BlackBerry 10 a été enfin annoncé et le net dans son ensemble a tourné la tête avec un soupir en disant ouais, bon, ok.
C'est pisser de rire, tu veux dire. Eh les
Non, bah
gars, on n'est
effectivement.
pas mort, regardez, dans 2 ans, on aura le BlackBerry 10.
Bon, c'est pas dans 2 ans, ça arrive bientôt quand même. Mais bon, disons qu'il n'y a clairement pas eu quelque chose qui a surpris tout le monde et qui a fait tourner les têtes. C'est un système qui aurait été super bien s'il était arrivé il y a 3 ou 4 ans, quoi. Autre chose, les images de ce qu'aurait été le téléphone Google en 2006, le téléphone Android Google en 2006. Je ne sais pas si tu as vu ces images, Jeff, c'est sorti il y a une dizaine de jours, mais enfin, moi, ça m'a à la fois un petit peu attristé et conforté dans l'idée que vraiment, enfin, s'il y a encore des gens qui prétendaient que Android n'a pas totalement singé l'iPhone, en tout cas à ses débuts, enfin à mon sens, pour moi c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais en tout cas à ses débuts c'était vraiment clair, ça c'en est une preuve flagrante. C'était un téléphone avec un clavier physique qui ressemblait en fait au vieux BlackBerry. Il avait un clavier physique, il avait un écran qui n'était pas un écran tactile, et c'était un an avant l'arrivée de l'iPhone. Et donc, il était prêt à être sorti, il était, enfin, en négociation, hein, c'était un prototype, il n'était pas complètement prêt, mais ils étaient en train de voir avec Sprint, si je ne m'abuse, la possibilité de le sortir avec un modèle économique intéressant, c'est-à-dire que le téléphone ne coûterait presque rien, mais le Google pourrait subventionner l'achat du téléphone. Je suis en train de m'embrouiller. Bref, ce qui est important, et Kyoku57 dit oui, c'est un troll que je suis en train de faire. Je suis désolé, c'est vraiment le cas, quoi. C'était un BlackBerry, le truc. Un an plus tard, Apple sort l'iPhone, et tout à coup, le clavier physique disparaît, l'écran devient entièrement tactile. Bon, là, il faut être honnête. C'est une preuve de plus qu'ils n'allaient pas du tout, du tout dans cette direction. Et Kyoku57, encore une fois, dans la chatroom, dit Android a toujours eu des téléphones à clavier. C'est pas ça la question. C'est que le téléphone Google était un téléphone d'avant l'iPhone. C'est que tous les téléphones qu'on voyait avant que l'iPhone arrive étaient des téléphones à clavier physique et à petit écran minuscule non tactile. Et ben, il était comme ça. Donc. Bon, bref, c'est même pas vraiment important, hein. C'est vrai que c'est un petit peu un troll que je fais aussi, mais c'est amusant parce que on avait tellement de gens qui disaient non, non, mais de toute façon, l'iPhone, ça va pas marcher pour cette raison, et Android, oui, ils avaient déjà des idées sur ce genre de choses à l'époque. Là, on a un exemple clair du fait que ça n'était pas le cas. Bon, Jeff, je sens que tu te retiens de dire quoi que ce soit, donc je ne vais pas forcer un petit peu plus.
Non. Tu t'inspires des choses qui marchent bien.
Oui. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'est y a rien.
C'était cynique, c'était cynique, hein, mais bon.
Non, mais en plus, Dieu sait qu'Apple le fait aussi, donc c'est juste que là, c'est clair. Bon, Flutter qui débarque sur Dailymotion. Si vous ne connaissez pas Flutter, c'est un système très intéressant. C'est pas une annonce super importante, mais je voulais en parler parce que ça risque d'intéresser notre public spécifiquement, qui est plein de hackers et de gens comme ça. En fait, Flutter est un système développé par un ancien de Pirate Bay, qui est vraiment intéressant. C'est un système où on paye à la société, enfin, on confie à la société Flutter une certaine somme par mois. disons 10 euros, 20 euros, etc. Et ensuite, quand on se balade sur le net, on clique sur le petit bouton flatteur, F-L-A-T-T-E-R, donc genre flatter en anglais, mais sans le E. Donc on clique sur ce petit bouton qui est comme les boutons like ou les boutons retweet ou les boutons plus 1 de Google. Et on tweet comme ça, on clique à chaque fois qu'on a un truc qui nous plaît, peu importe que... le résultat final, on clique quand ça nous plaît. Et à la fin du mois, la société en question, Flutter, redistribue à tous les gens à qui vous avez, chez qui vous avez cliqué, redistribue l'argent que vous avez alloué par mois. Donc si vous avez alloué 10 euros, il va redistribuer entre tous ces gens-là vos 10 euros. Si vous avez alloué 20 euros, il va redistribuer les 20 euros. Et c'est un moyen de payer les choses que vous aimez sans dépenser énormément d'argent et de manière hyper simple. Donc, ce système existe depuis un moment et je le trouve vraiment très intéressant depuis un moment. La grosse nouvelle maintenant, c'est qu'il arrive sur Dailymotion et que donc, d'ici peu de temps, toutes les pages Dailymotion seront équipées de ce bouton flatteur à côté des boutons, des autres boutons de réseaux sociaux. Et donc, ça pourrait devenir un moyen, ça pourrait se développer et devenir un moyen de paiement intéressant, intelligent et équitable, qui semble, enfin, qui moi me semble convenir. Donc bon, on verrait ensuite ce que ça donnerait dans la pratique, mais dans la chatroom, on me demande quelle est la part de la marge qu'ils prennent. Je crois que c'est 5% pour eux et 5% pour l'éditeur, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est à peu près ça. Donc voilà, espérons que ça continue à se développer et que ça donne quelque chose un jour. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a quelques autres petites choses dont on pourrait parler, mais je vais, c'est pas des choses très importantes, donc je vais arrêter. Je vais juste vous dire que si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire en nous laissant le nombre d'étoiles que vous penserez approprié, mais vous pourriez le faire comme Malcut qui nous dit merci et encore merci avec 5 étoiles. Saint Patrick est aux commandes, ne pas écouter est un péché, répétez-vous, simple mortel, car vous n'êtes pas prêt.
Wow.
J'apprécie ce genre de commentaires. Et
tu vas trader notre Patrick pour Saint Patrick. Ça t'est livré, mon cher.
Oui, bon, je vais me contenter de remercier plutôt Malcut et vous enjoindre à vous aussi laisser des commentaires là-bas, ou alors à aller sur le blog de nowatch.net et à aller sur l'article de l'émission pour nous laisser des commentaires s'il y a des choses que vous avez aimées ou pas aimées et ou sur lesquelles vous voulez nous corriger. Et vous pouvez évidemment retrouver notre camarade Jeff sur Twitter, avec son nom super simple dont tout le monde est jaloux, @Jeff, c'est ça ?
Avec deux F, oui.
Avec deux F. T'es pas sur Google Plus ou ces autres trucs, hein.
Si, je suis Jeff Clavier sur Google Plus, je suis Jeff Clavier sur Facebook. Enfin, soit je suis Jeff, soit je suis Jeff Clavier un peu partout.
D'accord.
C'est assez simple.
Ça sera simple à retrouver. Pour ma part, les liens sont également dans l'article de l'épisode, ou alors vous cherchez notre Patrick, c'est simple aussi et ça fonctionne. Et voilà, c'est la fin de l'émission. On vous remercie tous d'avoir écouté et on vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Ciao à tous.
À très bientôt.